Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 150. Célestin Berthelot, l'histoire sans trou de mémoire. Chers amis, bonjour. Alors, nous ne sommes pas à l'école. Et vous savez, chers auditeurs, que dans notre émission, vous l'avez bien connu, on ne donne pas de leçons. On n'aime pas la morale, mais on s'intéresse beaucoup à l'éthique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'éthique historique et précisément à l'enseignement de l'histoire. Par exemple, Auschwitz, le camp d'Auschwitz, il est situé en Pologne. Alors, on enseigne à l'école que c'est en Haute-Silésie. Mais certains professeurs d'histoire polonais récusent cette dénomination et enseignent que Auschwitz était situé sur un territoire occupé par l'Allemagne pour se dédouaner d'une quelconque complicité ou complaisance puisque antisémite. La Pologne avait été agressée et occupée par l'Allemagne nazie, mais quand même. Bon, donc la nuance, bien entendu, est importante. Au Conseil de l'Europe, à Strasbourg, un observatoire de l'enseignement de l'histoire a été créé en novembre 2020 à l'initiative du gouvernement français lorsque la France exerçait la présidence tournante du Conseil de l'Europe. Et aujourd'hui, j'accueille dans notre émission l'un des responsables de cet observatoire, Célestin Berthelot. Bonjour Monsieur Berthelot.
Bonjour Ambroise Perrin.
Alors nous allons parler de l'enseignement de l'histoire en Europe, dont le titre de notre émission, Trou de mémoire, un petit peu par provocation, en pensant aux élèves qui confondent, alors j'ai lu ça dans une enquête, ils confondent Jules César, Jeanne d'Arc et Napoléon, c'est à peu près à la même époque. Mais d'abord, puisque nous sommes à Strasbourg, avec un pied dans un côté du Rhin, et l'autre, à Kiel, par exemple. Dites-moi, la commémoration du 11 novembre, le 11 novembre 1918, c'est une victoire ou une défaite ?
C'est une victoire et une défaite, et c'est aussi une date qui n'existe pas dans d'autres États européens, en réalité. Donc en France, c'est une victoire, évidemment. Pour les Allemands, ce n'est pas une victoire, donc c'est une date qui n'est pas du tout célébrée. Et c'est vrai que dans d'autres pays, aujourd'hui on peut parler de l'Ukraine, c'est une date qui n'existe pas parce qu'ils n'étaient pas forcément engagés, ou alors avec la révolution d'octobre en 1917, un certain nombre de pays soviétiques en fait n'étaient même plus concernés par le conflit à cette
période-là. Par la Grande Guerre.
Exactement.
La Première Guerre mondiale, mais il y a quand même d'autres pays qui étaient concernés.
Tout à fait, mais au même titre que les Britanniques ont à peine la même vision de... Ça reste une victoire pour eux, mais c'est aussi pour eux le jour des vétérans. Donc chacun finalement a un peu utilisé cette date pour son propre narratif mémoriel. Et ce qui est important, en fait, et c'est un peu la position qu'on défend au Conseil de l'Europe et à l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire, ce n'est pas juste dire que pour les Français c'est une victoire, c'est d'avoir un peu cette vision globale, justement, qu'une date peut avoir différentes significations suivant les cultures, les nations et les personnes concernées.
Alors cela semble une évidence, sans faire de nationalisme, l'histoire est différente, bien sûr, dans chacun des pays. Parce qu'on se réfère à ses propres batailles ou à ses propres jalons. L'Observatoire fait des enquêtes dans les 47 ou 46 pays membres du Conseil de l'Europe.
Alors effectivement, on mène des rapports, donc des rapports généraux sur l'état de l'enseignement de l'histoire dans nos États membres. Donc juste à noter effectivement que l'Observatoire, c'est une structure ad hoc du Conseil de l'Europe, donc qui ne concerne pas encore tous les États membres. Les États font le choix volontaire de nous rejoindre.
D'adhérer à l'Observatoire.
Exactement.
Donc, alors ceux qui ne veulent pas adhérer, je suppose, au hasard, ce sont les pays plutôt qui réécrivent l'histoire à leur profit.
Pas nécessairement. Enfin, aujourd'hui, il y a plusieurs raisons.
Hongrie, par exemple.
La Hongrie a déjà été en contact avec nous par le passé. On a pu avoir quelques échanges de travail. C'est vrai que c'est un pays qui n'a pas souhaité pour l'instant continuer la coopération. Mais en tout cas, voilà, nous, on accueille absolument tout le monde et les États sont parfaitement libres, effectivement, de nous rejoindre ou pas. Sachant que pour d'autres, voilà, ça va être des raisons financières. D'autres, c'est purement et simplement des questions de compétences. Typiquement, l'Allemagne, aujourd'hui, n'est toujours pas membre parce qu'il faut en réalité mettre d'accord 16 Länder et ce qu'on appelle la KMK, donc c'est l'organisme fédéral pour les ministres de l'éducation. Donc c'est 17 interlocuteurs à mettre d'accord, donc autant dire que voilà, c'est pas
alors,
si simple que ça.
Par exemple, la Russie, hein, pas l'Union soviétique, a-t-elle fait partie, avant d'être expulsée, hein, je crois que c'est le mot qu'on utilise, expulsée, hein, en 2022, est-ce que la Russie a fait partie de l'Observatoire ?
En effet, au tout début, la Russie faisait partie des États fondateurs de l'Observatoire, donc voilà, qui a été fondé en novembre 2020, mais qui a véritablement commencé à fonctionner au cours de l'année 2021. Et effectivement, compte tenu de son exclusion en mars 2022, on n'a pas eu vraiment l'occasion de beaucoup travailler avec eux. Donc,
Alors, est-ce qu'au tout début, lors de sa présence, vous aviez évoqué, par exemple, cette manipulation, falsification de l'histoire ? On connaît c'est un cliché, mais enfin, tout le monde connaît les photos de Staline où il découpait ceux qu'il avait éjecté, tué, assassiné, et donc tout d'un coup sur la photo il y avait moins de personnages.
Alors, comme je le disais, finalement on n'a pas eu le temps vraiment de beaucoup travailler avec eux et on n'a pas vraiment eu le temps non plus de rentrer dans ce genre de débat. Donc nécessairement en fait aujourd'hui la manipulation, falsification, instrumentalisation de l'histoire, ce sont des sujets qui font évidemment partie de notre priorité. Notamment voilà, le cas russe et notamment voilà, les justifications de la guerre d'agression menée en Ukraine par la Fédération de Russie et notamment justifiées par une manipulation de l'histoire. Donc c'est évidemment des sujets qu'on traite aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de les traiter avec eux directement.
Alors imaginons que dans un livre d'histoire russe, dans 10 ans, on va dire que l'Ukraine a agressé la Russie, comme la propagande le dit actuellement.
C'est possible. Oui. L'objectif pour nous, c'est... De toute façon, aujourd'hui, on n'a plus vraiment la main sur ce qui se passe en Russie. On ne l'a jamais vraiment eu d'ailleurs, en tout cas en matière d'enseignement de l'histoire. Mais c'est possible. L'objectif, c'est justement que nous autres Européens ne tombions pas dans ce piège-là non plus et ayons une vision la plus objective, la plus factuelle et la plus réaliste possible de cette situation-là. Ouais. Donc finalement, ce qui se passera en Russie regardera d'une certaine manière les Russes. Nous, l'objectif, c'est justement de ne pas tomber dans le piège inverse, effectivement.
Et éventuellement de rectifier, mais de relever le fait que les choses ne sont pas scientifiquement établies ou historiquement établies, oui.
Tout à fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a été sollicité par l'organisme de fact-checking de l'AFP. Oui. Parce qu'il y avait une fake news qui circulait comme quoi les manuels scolaires, les manuels d'histoire ukrainiens érigeaient Hitler comme un héros. Et donc nous avons mobilisé nos réseaux d'experts sur place en Ukraine qui ont démontré par A plus B que c'était une invention totale qui servait juste à décrédibiliser
la propagande.
Exactement.
Voilà. Alors moi j'ai eu l'honneur, en tout cas le plaisir de rencontrer Alain Lamassoure au Parlement européen. Il était député européen.
Tout à fait.
Et il est l'un des fondateurs de cet observatoire. Ou l'un des premiers à avoir...
C'est même le père fondateur, en réalité.
C'est le père fondateur. Comme Schumann et
exactement.
Oh là là,
c'est notre...
Pour lui. Et alors, il me disait, le vrai sujet ou le vrai problème, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est les lacunes dans l'enseignement de l'histoire. Autrefois, il y avait des profs d'histoire géo qui étaient des gens érudits, passionnés. Et là, maintenant, apparemment, les programmes scolaires, tout ça, dans tous les pays, l'histoire est un petit peu reléguée. Aux oubliettes, bien sûr, non ?
Alors, c'est son postulat de base, effectivement, et c'est la raison pour laquelle il a encouragé la création de cet observatoire, justement pour qu'on s'assure de l'état de l'enseignement de l'histoire en Europe. Donc aujourd'hui, la situation dans les 20-19 États membres qu'on étudie aujourd'hui, la situation n'est pas aussi catastrophique que pourrait le laisser penser l'état du monde actuellement. Après, chaque État a sa manière d'aborder l'histoire. Nous, en France, on aborde ça sous l'angle histoire-géographie, ce qui est finalement un peu une originalité dans le paysage européen. Ce n'est pas du tout une généralité dans d'autres États membres. Certains préfèrent lier ça à l'éducation civique de manière très formelle, d'autres aux sciences humaines de manière plus large, et certains autres États aussi ont l'histoire comme matière en tant que telle. L'idée, après, c'est de savoir est-ce qu'elle est obligatoire jusqu'au bac ou équivalent. combien d'heures sont allouées, comment sont formés les enseignants. Donc c'est autant de questions qui se posent aujourd'hui, dont on apporte des réponses factuelles et dont on va laisser à chacun finalement tirer les conclusions qui s'imposent. Est-ce que l'histoire est suffisamment enseignée en Irlande ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, les données sont disponibles et chacun se fera son idée, voilà, en croisant les différentes informations qu'on aura pu récolter.
Alors, l'importance des cours d'histoire, bon, tout le monde, vous avez évoqué l'éducation civique. Mmh. C'est vrai que c'est la base pour un jeune, effectivement. Alors, bon, on est entre nous à la radio. Ma fille a fait l'école européenne à Bruxelles. Et effectivement, l'enseignement de l'histoire était tout à fait différent de celle d'un... Son grand-père est prof d'histoire. Voilà, donc on a pu comparer. Et sur l'Irlande, par exemple, elle a passé, je ne sais plus, 15 jours sur la fameuse famine et sur les causes de l'immigration, notamment aux États-Unis. Et la Seconde Guerre mondiale, elle a fait ça en deux leçons, quoi. Auschwitz en 10 minutes. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un point de vue différent. Est-ce que le but de l'Observatoire, c'est pas un petit peu de rééquilibrer toutes ces choses-là sans vouloir trop s'immiscer dans les cours nationaux ?
C'est à peu près ça, parce que nous, de toute façon, on n'est pas en position et on n'a pas le mandat, de toute façon, d'aller expliquer aux États membres ce qu'ils devraient mettre dans leur programme d'histoire, parce que de toute façon, on n'en sait rien. Finalement, chacun est libre toujours de faire ce qu'il faut et que... on n'a pas vocation à expliquer aux Arméniens ce que doit contenir le programme d'histoire nationale arménienne. On n'est pas en position de le faire et on n'a pas les connaissances pour non plus. L'objectif, effectivement, et ça, c'est l'un de nos repères clés, c'est le principe de multiperspectivité. Justement, c'est d'avoir un peu cette réflexion globale autour d'un objet historique, une date, un personnage, une guerre, une bataille, enfin tout ce qui peut relever du domaine de l'histoire. Et voilà, encourager finalement les États membres et les enseignants à avoir cette approche multiperspective, donc avoir un peu cette vision globale, déjà à l'échelle géographique, mais aussi suivant les points de vue.
Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un enseignement de l'histoire, disons, européen, comme il y a le musée de l'histoire européenne à Bruxelles, à côté du Parlement européen? Vous avez évoqué le génocide arménien, donc 1917.
Alors, je n'ai pas évoqué le génocide arménien.
Non, vous avez évoqué... Alors, c'est moi qui surinterprète ce que vous avez dit, mais le génocide arménien, qui est quand même un point d'histoire énorme... Je ne me souviens pas de l'avoir étudié à l'école il y a bien longtemps. Et est-ce que c'est un point d'histoire qui est aussi, disons, étudié que la Shoah ?
On ne s'est pas précisément penché sur la question-là actuellement, c'est-à-dire qu'on a aussi des rapports thématiques qui vont justement se plonger dans les détails des programmes d'histoire. Mais en tout cas, la question des génocides en Europe n'a pas encore été posée dans le cadre de nos rapports. En ce qui concerne le génocide arménien, là, on est vraiment à la croisée des chemins de...
Vous êtes prudent à cause de la Turquie, qui est membre de l'Observatoire, d'accord.
Voilà.
Voilà.
Mais donc, en tout cas, voilà, pas... c'est...
je ne vais pas faire en sorte que vous fassiez, comment dire, virer, non pas virer, mais qu'on vous fasse des remarques là-dessus. D'accord, donc il y a quand même une certaine diplomatie à avoir sur certains points. Parce que le génocide arménien, puisque maintenant on est parti sur cette digression, ça a été reconnu très très tardivement, même en France.
Tout à fait, et finalement en France on a aussi des lois mémorielles sur la négation, enfin qui luttent contre la négation du génocide arménien. Effectivement, au niveau du Conseil de l'Europe, la position est un peu différente. Et le but, comme vous le disiez, c'est d'avoir cette discussion très diplomatique pour aussi garder cette volonté de construire quelque chose ensemble et pas les uns contre les autres.
Mais c'est quand même basé sur des faits historiques, vérifiés par des scientifiques, des profs, des gens qui vont chercher dans les archives et tout. Bon, c'est pour ça qu'en France, par exemple, nous, on se gargarise avec Jeanne d'Arc. On sait que c'est quelque chose qui a été créé.
Mais finalement, effectivement, là, c'est très sensible parce que ça touche à un génocide et à l'extermination de millions de personnes. Au final, ouais, beaucoup d'États membres, même ceux qui se présentent comme les plus vertueux, ont chacun aussi leur part d'ombre dans leur propre histoire nationale, et sur lesquelles ils n'ont pas encore envie de revenir non plus pour l'instant. Donc, il faut aussi que nous, on compose avec cette sensibilité Voilà, et d'aller vers vraiment des discussions constructives pour que voilà, chacun puisse s'inspirer aussi des uns et des autres.
Mais en 2026, cette part d'ombre, apparemment, elle est quand même en train de s'évaporer un petit peu. Alors, je ne parle pas de la zone grise de Primo Levi qui disait c'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a des gens qui se sont compromis, mais parce que c'était pour leur survie. Mais par exemple, en France, un des grands sujets maintenant, c'est la décolonisation. Et on confond la recherche scientifique. Les défenseurs disent, on leur a amené la culture, les médicaments et tout. Bon, bien sûr, il y a eu des excès, il y a eu des salopards, notamment les Belges qui coupaient les mains de ceux qui... Voilà. Mais en même temps, il y a un autre mouvement qui est basé complètement sur la morale, sur une espèce de manipulation de l'opinion, avec des buts, bien sûr, électoralistes actuels, et non pas scientifiques. Comment est-ce que vous faites la différence entre les faits, la recherche scientifique, qui doit être la base de l'histoire, les archives, je suppose, les témoignages, si c'est encore 80 ans plus tard, c'est un peu difficile. Et puis, ces espèces de mouvements, comme par exemple en Belgique, on interdit Tintin au Congo parce que c'est une atteinte, alors qu'en 1920...
Et justement, je pense que là, on est vraiment au cœur de... finalement, un peu du principe de l'observatoire. On ne s'interdit pas de parler d'un sujet parce qu'il risquerait de déplaire. Nous, ce qui nous importe, justement, c'est d'avoir cette vision scientifique, factuelle, objective, et de ne pas verser dans le militantisme, finalement. Comment on fait la différence ? Parce que la science, en réalité, l'histoire, comme les maths, finalement, répondent à une logique, à un processus historique, et tout est une question d'interprétation, mais ensuite, les faits sont là. Nous, notre objectif, après, c'est de nous assurer, ou en tout cas de voir si cette histoire factuelle n'est pas instrumentalisée par la suite. Et il n'y a pas de bonne instrumentalisation, finalement, de l'histoire. Qu'elle soit poursuivie à des fins jugées moralement bonnes, chacun se fait son idée là-dessus, mais l'objectif n'est pas d'avoir une histoire instrumentalisée d'un côté ou de l'autre, c'est d'avoir une histoire factuelle qui servent, en tout cas ça c'est l'objectif du Conseil de l'Europe, qui servent aussi aux élèves à cultiver leur esprit critique et à finalement acquérir petit à petit l'importance des valeurs démocratiques.
Ayez l'esprit critique, c'était le mantra de mon père, prof d'histoire, qui répétait toujours ça à ses élèves. Mais comment vous faites alors pour sélectionner, entre guillemets, les experts de chacun des pays ? Est-ce que c'est un Allemand qui va enquêter en Espagne et un Espagnol qui va en Italie ? Ou alors...
Non, parce que évidemment, par exemple, parmi nos États membres, on a la Géorgie et tout le monde ne parle pas ou ne sait pas lire le géorgien. Donc, on travaille avec des experts locaux, mais qui sont, issus de...
Qui ont fait leurs études à Strasbourg.
Non, pas du tout. Au contraire, plus les personnes proviennent
de... Non, parce qu'il y a des géorgiens qui sont...
Tout à fait. Mais plus les gens proviennent de milieux différents, finalement, plus c'est intéressant pour nous, parce que les points de vue ou la formation est différente. Non, donc du coup, nous, on s'adosse déjà à un conseil scientifique qui est sélectionné suite à un appel à candidature, et ces personnes ensuite siègent dans notre conseil scientifique après avoir été nommés par les représentants de nos États membres.
Donc, donc il y a quand même
un
filtrage, peut-être.
Oui, mais qui reste assez faible dans la mesure où ça reste quand même... En tout cas, les membres de notre conseil scientifique restent des experts reconnus dans leur domaine
ils
à l'échelle européenne.
Voilà, ils ont publié.
Exactement.
Oui. Henri Amouroux disait « Je ne tiens pas compte des témoignages ». C'est quelque chose qui est souvent peu fiable, des gens qui ont... je ne m'appuie que sur des archives. Voilà.
C'est possible parce qu'après, ça c'est un débat auquel j'ai participé il y a quelques semaines, c'était le lien finalement entre mémoire historique et la mémoire des gens en tant que telle. Et en fait, les gens qui, dans le récit de leur histoire, finalement, peuvent avoir se manipulent finalement d'une certaine manière. Voilà.
Oui, à force de raconter.
C'est ça. Et certaines choses qui ne se sont jamais passées finalement deviennent vérité et personne ne pourra le contredire à ce niveau-là.
Et qui se trompent sur des tas de choses de bonne foi.
Exactement.
Voilà. Oui. Moi, j'ai une anecdote. Là, c'était pour FR3 et Arte. Au printemps 1989, donc avant la chute du mur, j'ai eu la chance d'avoir un gros reportage à Auschwitz avec Henri Amouroux et des survivants encore. Hein, donc, ils n'étaient pas encore... ils avaient 60 ans. Et il y a un monsieur, monsieur Albert, je me souviens très bien, qui disait, ici, il y avait ça, là, il y avait ça, il creusait, on sortait des bouts d'os et tout ça. Et Amouroux lui dit, non, vous vous trompez, c'était pas là. Il dit, mais enfin, je le sais, moi, j'étais sur place. Et après, Amouroux, avec notamment les archives de Rolly Hilberg, hein, la destruction des Juifs en Europe et tout ça, il disait, non, c'est faux. Il avait un mètre, il mesurait la chambre à gaz, les tailles et tout. Et c'était un travail de scientifique. Et, sans vexer quand même les
Syriens. Non, il ne faut pas non plus tomber dans la déshumanisation.
Bien
ou
sûr.
Dans le. Voilà,
mais
tout
quand
à fait.
Même, il prouvait que le témoignage n'était pas quelque chose de fiable. Tout ça, avec, je le dis avec précaution, en saluant tous les survivants qui vont dans les écoles et qui racontent leur histoire, même si elle est. Ils ont lu quelque chose dans un bouquin et finalement ils se sont accaparés et ils racontent l'histoire. C'est pas si grave que ça, parce que voilà.
Le fond reste tout à fait cohérent, voilà. Effectivement, mais c'est justement dans ce débat que je mentionnais juste avant, il y avait un psychologue qui était présent et qui disait justement que notamment dans des situations de traumatisme ou des événements comme l'horreur des camps de concentration, les gens avaient aussi tendance à avoir un filtre pour ne pas non plus se souvenir exactement de ce qui s'était passé pour finalement, pouvoir revivre aussi derrière, quoi. Donc, c'est pas surprenant, en tout cas, cette anecdote.
Alors, vous, Célestin Berthelot, vous avez fait Sciences Po.
Oui.
Ensuite, la fac de droit. Vous avez fait un peu de politique. Hein. Vous avez été l'assistant d'un député. Est-ce que l'Observatoire peut avoir une certaine efficacité ou aboutir à des mesures concrètes, puisque vous avez fait de la politique?
Alors justement, est-ce que la politique peut avoir des effets concrets à terme? Le débat est très large. En tout cas, nous, on se pose évidemment la question tous les jours et on est très conscient du fait que nos réalisations se mesureront vraiment au long temps. Par contre, en tout cas, on a déjà un premier exemple très concret de réalisation. Notre premier rapport thématique traitait de l'enseignement des crises sanitaires et pandémies et catastrophes naturelles dans l'enseignement de l'histoire. La publication de ce rapport correspondait au moment où la Géorgie préparait un nouveau programme d'histoire et s'est rendu compte un petit peu que ces sujets-là étaient vraiment trop peu traités dans ces programmes. Et la Géorgie a décidé de s'inspirer d'un certain nombre de conclusions de notre rapport pour enrichir son programme. Tout ça, finalement, en s'inspirant des pratiques des autres États membres. Donc là, finalement, c'est un peu l'incarnation de ce qu'on vise in fine dans l'Observatoire, c'est-à-dire cet échange de bonnes pratiques et une co-inspiration.
Mais est-ce que les membres de l'Observatoire relaient les travaux au niveau national? Alors je pense, pour les Français, l'ambassadrice qu'on connaît bien à Strasbourg, Marie Fontanelle, puis ensuite ça a été, aujourd'hui c'est Pape Ndiaye. Est-ce qu'il siège à l'Observatoire et ensuite est-ce qu'il rapporte cela à l'un des nombreux ministres de l'éducation?
Alors effectivement, nous, on est en contact aussi direct avec le ministère de l'Éducation nationale. L'un des hauts fonctionnaires de ce ministère siège dans notre comité de direction. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a la chance d'avoir Pape Ndiaye, qui est un historien et qui est personnellement et intimement convaincu de l'utilité de cet observatoire. Donc c'est vrai qu'on a un soutien très fort de la part de l'ambassadeur en poste actuellement. Après, la France, c'est une très grande administration, l'éducation nationale, donc on a du mal encore un peu à sortir d'un cadre régional. L'objectif pour nous, effectivement, c'est d'avoir un contact avec l'ensemble des académies dans d'autres pays membres.
Il y a d'autres ambassadeurs d'autres pays qui siègent
Alors, les ambassadeurs eux-mêmes ne siègent pas au comité de direction, ce sont souvent... très souvent des hauts fonctionnaires des ministères de l'éducation,
qui
des différents
états. Des représentations permanentes
Non, qui viennent des ministères directement, qui viennent de l'administration centrale, oui, tout à fait.
Mmh. Alors, je pense que chaque année c'est la même chose, mais en 2026, il y a le télescopage avec l'actualité, l'Ukraine, la guerre au Moyen-Orient. J'imagine que l'ambassadeur, il est quand même obligé de respecter les directives de son pays ou...
Ah, ça c'est clair. Après voilà, il reste représentant des intérêts français auprès du Conseil de l'Europe. Mais après, j'imagine, je pense que vous pourrez lui poser la question si jamais vous avez l'occasion de l'accueillir un jour. Mais
on a eu ce
plaisir.
Bon
voilà déjà.
Oui.
Mais voilà, je pense que pour avoir aussi fréquenté la représentation permanente de la France au début de ma carrière, l'ambassadeur a aussi une certaine latitude pour décider de ses propres priorités. Évidemment, toujours dans le cadre des autorisations, en tout cas des discussions qu'il peut avoir avec ses homologues au Quai d'Orsay.
Alors, le mot important dans cet observatoire, c'est enseignement. Donc, oui. C'est-à-dire que vous vous adressez à des élèves et des étudiants. Hein, c'est ça. Est-ce que des élèves et des étudiants sont consultés ou font partie de l'observatoire pour connaître leur passé et voir leur centre d'intérêt?
Évidemment.
Est-ce qu'il faut chanter la guerre des Gaules en rap pour que ça passe chez les élèves?
Non, et en plus, je pense que...
Gallia est omnia divisa, une parte est stress.
Non, en plus, je pense que... Il y a beaucoup de clichés qui entourent les jeunes, et les jeunes, je pense qu'ils sont intéressés par l'histoire de manière générale, sauf qu'ils s'y intéressent d'une autre manière. Évidemment, l'essor des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, de l'IA, change un petit peu cette approche de l'enseignement de l'histoire. Et j'ai l'impression, en tout cas, des échanges qu'on a avec eux, qui, eux, finalement, demandent un petit peu ces clés pour maîtriser l'histoire, finalement. Mmh. Et aujourd'hui, ils sont bien conscients et très conscients même du monde qui les entoure. Et il est très important pour eux de le comprendre. Et ils ont bien compris que l'histoire fait partie de ces mécanismes qui leur permettent de comprendre le monde dans lequel ils évoluent aujourd'hui. Et nous, effectivement, c'est une très grande priorité pour nous, c'est de convier, lors de nos événements, lors de discussions, à chaque fois des classes, des jeunes, des étudiants. On a, lors de notre conférence annuelle, qui est notre grand événement qui a lieu en octobre, on a sur 300 personnes au moins un tiers qui sont issus des lycées pour l'instant aux alentours. On a vocation aussi à élargir, mais voilà, c'est très important pour nous d'avoir des élèves. Et dans le cadre d'un des prochains rapports généraux qu'on va sortir, ça sera quasi exclusivement sur une enquête menée auprès des élèves, justement pour qu'ils nous apprennent leur lien avec l'enseignement de l'histoire.
Et on dénigre toujours les enseignements en disant « avant c'était mieux ». Est-ce que les élèves de 2026 ont conscience de l'importance de l'histoire, pour dire court, dans leur vie quotidienne?
Ils ne le formalisent pas tous comme ça, mais je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, le monde qui les entoure est extrêmement compliqué. Avec des pressions, que ce soit les pressions géopolitiques, économiques, voire climatiques, les jeunes sont quand même avides de comprendre comment on en est arrivé là. L'idée, effectivement, derrière, c'est de trouver les bons moyens pour les accompagner, oui, à comprendre, et c'est pour ça, je pense qu'on
sans
peut y revenir.
Sans qu'il y ait un prétexte, comme on a évoqué la colonisation, en l'occurrence...
Ça peut être un point d'entrée, effectivement.
La repentance, la culpabilité collective, bon, c'est aussi un début de propagande.
Tout à fait.
Vous arrivez à créer une distance?
Oui, et puis en fait, je sais que beaucoup d'acteurs de la société civile ou d'associations d'enseignants travaillent beaucoup aussi sur ce qu'on appelle l'histoire familiale ou l'histoire locale. En fait, c'est de partir de quelque chose de très local pour finalement avoir une vision beaucoup plus générale sur l'histoire. À Strasbourg, notamment, parce qu'il y en a quatre devant chez moi, les Stolpersteine, finalement, oui, c'est un excellent point de départ pour comprendre ce qu'est la Shoah, ce qu'est la déportation. Et finalement, qu'est-ce que c'est? C'est juste quatre petites pierres sur lesquelles sont gravés des noms. Et finalement, de personnaliser... cela, finalement, ça permet d'avoir cette approche, voilà, à la grande histoire. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent justement à parler d'histoire familiale, d'histoire locale, justement, pour...
C'est un point très positif pour conclure notre émission. Merci beaucoup. Vous connaissez Frédéric Naudufour, là. Voilà. Alors, elle dit, quand elle travaille sur l'histoire en Alsace, dès qu'elle parle avec quelqu'un, ils disent ah oui, mais enfin, les malgré nous, autre chose. Mais moi, je connais quelqu'un dans ma propre famille. Hein, et voilà. Donc, on est toujours impliqué. Alors,
tout
c'est
à fait.
Peut-être spécifique à l'Alsace par rapport aux autres régions.
Chaque région a sa propre histoire, finalement. Et dans le sud-ouest, à Bordeaux ou même à Nice, chacun a aussi des expériences ou des anecdotes ouais. familiales liées à la Seconde Guerre
Sauf
mondiale,
qu'ils
par exemple.
Ont pas changé quatre fois de nationalité comme nos grands-mères. Voilà.
Tout à fait.
C'était l'épisode numéro 150 de Vous l'avez bien connu, Célestin Berthelot, l'histoire sans trou de mémoire. Et vous n'auriez pas aimé être prof d'histoire ?
Ben si. Tout à fait, parce qu'au début de mes études en fac de droit, la première année était un petit peu compliquée à démarrer. Et donc j'ai dû redoubler, je me suis posé la question à ce moment-là, mais est-ce que j'aimerais pas faire une fac d'histoire finalement pour devenir prof d'histoire ? Et finalement j'ai persévéré en droit, puis à Sciences Po et aujourd'hui au Conseil de l'Europe, et finalement je retrouve
Vous
un petit peu,
les
premiers.
Deux.
Exactement.
Voilà. La semaine prochaine, attention au sourire de Morgane Lehmann, elle viendra en studio et elle est une tueuse à gages. Une tueuse à gages. Alors, c'est une copine d'Aurélie Péné qui écrit des polars. Voilà, vous l'avez bien connue tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom est Jules César. Non, mon nom est Ambroise Perrin, parce que Jules César est bien passé en Alsace.